Chers amis, chers camarades, Lutte ouvrière se présente aux élections européennes dans toutes les circonscriptions parce que nous voulons donner la possibilité à tous les travailleurs d'exprimer clairement, sans ambiguïté, leur mécontentement et leur écœurement. Je suis ouvrier chez Toyota près de Valenciennes dans le Nord et je suis en tête de la liste que Lutte ouvrière présente dans la circonscription pour les élections européennes de ce dimanche. Aux dernières élections municipales, nous avions présenté des listes dans plusieurs villes, comme ici au Havre, pour faire entendre le camp des travailleurs dans les communes où nous sommes présents. Pour ces élections européennes, nous avons choisi de nous présenter dans toutes les circonscriptions. Bien entendu, pas plus que les précédentes et pas plus qu'aucune autre élection, les élections européennes ne changeront quoi que ce soit au sort des classes populaires. Il faudrait être naïf pour penser le contraire, et menteur comme un politicien de la bourgeoisie pour tenter de le faire croire. C'est pourtant bien ce que tous les dirigeants des partis politiques nous répètent sans cesse, et notamment ceux de gauche. Rappelez-vous leur slogan de la campagne des élections présidentielles. « Le changement, c'est maintenant ». Un slogan propagé par le Parti socialiste et cautionné aussi par le Parti communiste et le Front de gauche de Mélenchon, qui ont dit que les élections, c'était important, qu'il fallait battre la droite, chasser Sarkozy en votant Hollande au second tour, que ce serait moins pire. Maintenant, Hollande a pris la place de Sarkozy à l'Élysée, et c'est pire encore. C'est pire parce que dans cette période de crise, la bourgeoisie mène une véritable guerre sociale et économique à la classe ouvrière pour maintenir des profits maximums. Alors, dans la guerre que les capitalistes mènent contre la classe ouvrière, tous les gouvernements qui se succèdent sont aux ordres de la bourgeoisie. Oui, après la raclée électorale du Parti socialiste au municipal, Valls a pris la place d'Hérault. Dans la continuité de la politique menée par Hérault, Valls mène une politique de combat contre les travailleurs, contre les classes populaires. La différence, c'est que la politique anti-ouvrière est plus dure, et plus dure encore, et qu'elle est plus brutalement revendiquée. Le plan Valls, ce sont 50 milliards qui seront pris dans la poche des travailleurs pour en donner près de 40 aux actionnaires des grands groupes capitalistes. Et on peut être sûr que ces milliards vont bien atterrir dans la poche des riches bourgeois. Par contre, on peut être sûr aussi que les baisses d'impôts dérisoires annoncées par Manuel Valls vont lui servir à justifier les attaques qui vont se multiplier contre les travailleurs. Et pour mener cette politique anti-ouvrière, Valls ne va pas être gêné par les confédérations syndicales. Il aurait fallu qu'elles appellent à une riposte immédiate. Au lieu de cela, on n'a entendu que des lamentations sur le manque de dialogue social. Mais le manque de dialogue social, Valls s'en moque. Il a été nommé pour faire les poches des travailleurs, pas pour bavarder avec les négociateurs professionnels des syndicats. Alors bien sûr, beaucoup de travailleurs, beaucoup des nôtres, sont désemparés par l'avalanche des coûts reçus, des coûts annoncés et du manque de réaction. Beaucoup sont dégoûtés, déboussolés de voir la gauche gouvernementale défendre, une fois de plus, les seuls intérêts des classes riches. Ils l'ont manifesté au municipal en s'abstenant massivement. Cette abstention a été une façon de protester. Mais s'abstenir, c'est se taire, c'est laisser le terrain à nos adversaires. Et l'abstention de cet électorat de gauche a été récupérée par la droite qui a revendiqué une victoire au municipal alors qu'elle n'a pas vraiment progressé. Aujourd'hui, les capitalistes sont forts, mais ils ne sont forts que de l'absence d'opposition réelle, et ils changeraient de ton pour peu que la classe ouvrière commence à se faire entendre. Le Parlement européen n'est qu'une machine à parlotte au service des bourgeois. Les décisions importantes se prennent dans les conseils des ministres de chaque pays pour mener partout la même politique. Le sort des classes populaires de l'Europe ne dépend pas de ces marionnettes dévouées aux intérêts des plus riches, mais dépendra de la capacité des travailleurs à intervenir sur la scène politique avec leurs propres revendications. Eh bien, ne manquons pas l'opportunité que nous donnent les élections pour défendre ces revendications. À l'échelle de l'Europe, les travailleurs partagent un sort commun. Ils partagent l'exploitation par les mêmes capitalistes et banquiers. Et ils subissent la même politique anti-ouvrière de la part de leurs gouvernements respectifs. Ici en France, notre avenir ressemblera à ce que vivent aujourd'hui les travailleurs grecs ou espagnols, sauf si la classe ouvrière intervient avec ses armes de classe, les grèves, les mobilisations, les manifestations. Oui, nous sommes tous attaqués de la même façon, et les travailleurs doivent profiter de toutes les occasions pour s'exprimer. S'il y a une unité qui existe aujourd'hui pour les travailleurs d'Europe, c'est bien l'unité dans l'exploitation. Bien sûr, il y a des différences entre les pays membres de l'Union. La situation de la France, longtemps puissance coloniale, est difficilement comparable à la pauvreté qui règne en Roumanie ou en Bulgarie. Mais partout, c'est l'accroissement de la misère et du chômage. En Europe, il y a, selon les chiffres de 2013, plus de 26 millions de chômeurs recensés. C'est dire qu'il y en a en réalité largement plus. Cela correspond à la population de la Belgique, du Portugal et de l'Irlande réunies. Partout, on voit aussi la liquidation, exigée par le patronat et exécutée par tous les gouvernements, des quelques protections sociales qui subsistent encore. Partout, les travailleurs d'Europe subissent la même politique désastreuse. En Grèce, trouver un emploi est une mission quasi impossible. Plus d'un jeune sur deux de moins de 25 ans est au chômage. Et une offre de l'organisme de télécommunication grec de 390 emplois de vendeurs et de techniciens payés au salaire minimum, c'est-à-dire 580 euros bruts, a vu affluer 18 000 candidatures. Et Médecins du Monde redoute une crise humanitaire car 30% des Grecs, soit 3 millions de personnes, ont perdu leur sécurité sociale. En France, la situation des travailleurs n'est pas encore celle des travailleurs en Grèce. Pourtant, l'usine Toyota où je travaille recrute en ce moment 500 intérimaires supplémentaires. Et ce sont 9 000 chômeurs qui ont répondu à cette annonce pour gagner un salaire un peu supérieur au SMIC avec un travail et des horaires abrutissants. En Espagne, les ONG parlent de naufrage social depuis 2008. Là-bas aussi, 3 millions de personnes vivent avec moins de 307 euros par mois et 13 millions sont en situation d'exclusion sociale, soit plus d'un quart de la population. Il y a 200 000 familles dont aucun membre ne travaille et qui vivent avec les 400 euros mensuels d'aide sociale. Pas surprenant, dans ces conditions, que la Croix-Rouge alerte sur la situation des enfants qui subissent des problèmes de malnutrition. Et au Portugal aussi, il commence à être question de problèmes de carences alimentaires. En Allemagne, la principale puissance économique du continent, les riches s'enrichissent toujours plus, pendant que le nombre de travailleurs pauvres grimpe en flèche, que la précarité explose, tandis que le gouvernement a osé, il y a plusieurs années, introduire des boulots payés 1 euro de l'heure. L'introduction d'un SMIC, pour la première fois dans ce pays qui n'en avait pas, a fait hurler un certain nombre de patrons. Pourtant, si jamais ce salaire minimum entre en vigueur en 2017, comme c'est prévu pour le moment, il ne sera que de 8,50 euros brut de l'heure, soit moins que le SMIC en France aujourd'hui, alors que l'Allemagne est plus riche. Mais la richesse d'un pays, les seuls à en profiter, ce sont les capitalistes. Oui, de part et d'autre de cette Europe, les travailleurs subissent à un degré ou à un autre la même politique. Chômage massif, augmentation des impôts, réduction des indemnités chômage, des pensions de retraite et des dépenses de santé, attaques sur les salaires, et ils vivent tous une aggravation des conditions de travail par les mêmes treuses industrielles. Alors, dans le camp des travailleurs, le même problème se pose d'un pays à l'autre. Comment se défendre? Comment ne pas subir le chômage? Comment éviter de sombrer dans la pauvreté et dans la déchéance? Le capitalisme, c'est une guerre constante que mène la bourgeoisie contre la classe des travailleurs afin de tirer des profits de l'exploitation du travail. La crise, cela aggrave et exacerbe cette guerre, une guerre entre capitalistes rivaux pour s'accaparer les marchés, une guerre au cours de laquelle les plus puissants dévorent leurs concurrents qu'ils sont moins. Mais c'est d'abord et surtout la guerre des capitalistes pour maintenir et accroître leurs profits malgré le ralentissement des affaires au détriment des travailleurs. Les armes de la guerre que la bourgeoisie mène aux travailleurs, ce sont les licenciements, l'intensification de l'exploitation, la précarisation des emplois, la baisse des salaires, directement ou en s'attaquant d'abord aux primes. Les armes de cette guerre, ce sont aussi la pression mise sur les États pour que leurs moyens soient davantage encore drainés vers les entreprises, c'est-à-dire vers leurs actionnaires, au détriment des services publics et du salaire différé que constitue la protection sociale. Pour faire accepter tous ces sacrifices aux travailleurs, les patrons et les politiciens à leur service ont des tonnes d'arguments. Et ils en usent de la salive pour que les idées patronales pénètrent au plus profond des cerveaux ouvriers. Et comme si cela n'était pas suffisant, il se trouve des dirigeants syndicalistes pour défendre les mêmes idées pro-patronales auprès des travailleurs. À chaque fois qu'il y a des licenciements, ils nous expliquent qu'on ne peut rien faire, que ce serait justifié pour sauver l'emploi de ceux qui restent. Nous, les travailleurs, nous ne devons pas nous soucier de la santé des entreprises ou du prétendu intérêt national, comme nous y invitent tous les grands stratèges de l'extrême droite, de la droite ou de la gauche réformiste, politique ou syndicale. Nous, les travailleurs, nous n'avons que nos emplois et nos salaires pour vivre. Nous ne sommes en rien responsables de l'organisation du système ni de sa faillite. Alors, le problème n'est pas de savoir quelle politique suggérer au patronat et à ses serviteurs gouvernementaux. Nous devons, au contraire, être bien conscients que notre seule richesse à nous, les travailleurs, c'est notre emploi et le salaire qui va avec. Et c'est cela qu'il faut défendre ouvertement, clairement face au patronat et face à ses serviteurs qui mettent en avant l'intérêt de l'entreprise, de la région, de la nation, pour nous détourner de nos véritables besoins. C'est pourquoi Lutte ouvrière met en avant un programme qui se fixe pour objectif l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous avec un salaire qui permette de vivre décemment. Voilà ce que nous avons l'intention de dire dans ces élections et surtout nous voulons donner la possibilité aux travailleurs conscients de le dire avec nous. Avec les élections européennes, on entend le concert des politiciens de la bourgeoisie nous expliquer que nous sommes tous dans le même bateau, qu'il faut sauver les entreprises. Mais une entreprise, c'est un propriétaire possédant d'un côté et des salariés exploités de l'autre. C'est un patron et des actionnaires à un bout et des travailleurs à l'autre bout. Sauver les uns, c'est forcément écraser les autres. Protéger les profits des détenteurs de capitaux, c'est inévitablement augmenter l'exploitation des ouvriers et des employés. C'est toujours au nom de l'entreprise que les patrons décident de fermer des usines ou de licencier, et c'est en ce nom qu'ils baissent les salaires, soi-disant parce que la concurrence le leur impose. Le maître mot, au nom duquel on devrait accepter tous les sacrifices, c'est la compétitivité. Mais pour un patron, être compétitif, ce n'est rien d'autre que regorger de profits et écraser le voisin, et pour cela, payer moins les ouvriers, les faire travailler plus et plus dur. Pour échapper à cet engrenage, le monde du travail doit acquérir la conscience d'appartenir à une classe sociale avec des intérêts diamétralement opposés à ceux de la bourgeoisie. Face à la bourgeoisie, il faut que se développe la conscience d'appartenir au camp des travailleurs. Dans cette élection européenne, on entend aussi décliner sur tous les tons que pour qu'on puisse se sortir de la crise, il faut qu'on se protège du voisin, du travailleur voisin, et qu'on devienne compétitif pour éviter que le travail ne parte chez lui. Depuis le temps qu'ils nous font ce chantage à la concurrence, à la compétitivité, la population travailleuse s'appauvrit et seuls les plus riches, les capitalistes, s'enrichissent sans arrêt. Eh bien, n'oublions pas que dans toute guerre, fût-elle économique, où des travailleurs se laisseraient entraîner à prendre pour cible d'autres travailleurs au prétexte qu'ils n'ont pas le même statut, qu'ils ne sont pas de la même nationalité ou de la même origine, il n'y aura que des vaincus dans les rangs des travailleurs. Quelles que soient leurs différences de statut, d'origine, de nationalité, qu'ils soient croyants ou pas, les travailleurs n'ont pas d'ennemis, pas de concurrents au sein de leur camp, de leur classe sociale. Ils n'y ont que des alliés potentiels, des frères de classe, des camarades. Les travailleurs n'ont qu'un ennemi. Il est dans leur pays, c'est la classe des capitalistes, et en premier, les capitalistes français. En fait, le mieux à faire dans ces élections, c'est que les travailleurs donnent de la voix et se fassent entendre. Le camp des travailleurs, c'est celui des millions de salariés, de chômeurs et de retraités qui ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés pour vivre. Chaque fois que cela est possible, et les élections en donnent la possibilité, il faut que l'on voie et que l'on entende les revendications du monde du travail. Parce qu'il n'est pas tolérable de supporter le fléau qu'est le chômage et qui ne cesse de s'amplifier, il est nécessaire pour les travailleurs de prendre le mal à la racine en revendiquant l'interdiction des licenciements. Les principaux pourvoyeurs du chômage, ceux qui licencient ou suppriment des emplois par centaines ou par milliers, ce ne sont pas les petites entreprises du coin, mais des groupes capitalistes richissimes. C'est le groupe Renault lui-même. Il y a une dizaine d'années, l'usine de Sandouville regroupait près de 5000 travailleurs. Plan de suppression d'emplois après plan de suppression d'emplois, les effectifs de l'usine sont tombés à 1600. Plus d'un millier de jeunes n'ont pas trouvé d'emploi parce que Renault augmentait ses profits sur le dos de ceux qui avaient la chance de travailler, comme disent les patrons. Ces derniers mois, quelques centaines de ces travailleurs au chômage sont retournés pointer à l'usine. Mais dans quelles conditions? Avec la condition d'ouvrier Kleenex, jetable après usage, car tous les contrats sont de 18 mois maximum. Et après, comment vivre? Comment payer son loyer? Comment se nourrir même? Partir où quand le chômage est quasi aussi important dans toutes les régions? Alors, la mesure de bon sens qu'il faudra imposer à Renault, comme dans toutes les entreprises, ce sera en priorité de leur interdire de licencier. Il sera nécessaire de contraindre le patronat à prendre sur ses profits qui devront servir à sauver les emplois, puis de leur imposer de répartir le travail entre tous. Cela coûtera de l'argent, certainement. À quoi donc servent les milliards engrangés par les patrons d'année en année? Ne serait-il pas plus utile à protéger les travailleurs de la misère? Bien sûr que si. Alors nous sommes 25 millions de travailleurs, ouvriers, employés dans ce pays. Tout ce que la société crée, tout ce qui s'y passe relève d'une gigantesque chaîne de travail humain dont il est impossible de distinguer le début et la fin ou dissocier la contribution des uns et des autres. C'est le fruit du travail collectif, le fruit d'une classe sociale, la classe ouvrière. Sans la classe ouvrière, sans cette immense chaîne de travail manuel et intellectuel, le capital n'est rien. Sans nos bras et nos cerveaux, comment la société pourrait-elle tourner? Sans la classe ouvrière, la bourgeoisie n'existerait pas. Chez Toyota, où je travaille, nous assemblons des voitures. Une toutes les 57 secondes. Nous sommes 3500 pour faire cela. Pour pouvoir les assembler et qu'en bout de ligne de production, la voiture démarre pour être stockée sur un immense parking avant d'être emmenée en camion ou en train, il en faut tous les éléments. Le métal qui est découpé et pressé à l'usine pour en faire les portes, la caisse, le capot, est produit dans des usines sidérurgiques avec du minerai extrait par des mineurs. La peinture qui est posée sur cette caisse métallique provient d'usines de l'industrie chimique où le pétrole, extrait en Arabie Saoudite ou en mer du Nord, en est une base, tout comme pour toutes les pièces plastiques qu'on retrouve dans le véhicule. Et puis il y a aussi le moteur, produit en Pologne ou au Japon, le câblage électrique, confectionné en Slovaquie, la colonne de direction, assemblée en République tchèque, des cartes électroniques assemblées en Espagne, avec des puces produites en Chine ou au Japon, des mousses insonorisantes fabriquées en Turquie, 200 fournisseurs directs différents, et à chaque étape, il aura fallu des ouvriers, des employés, en amont, des mineurs, en aval, des routiers, des marins, des conducteurs de train, et à chaque fois, des employés de banque qui gèrent toute une partie des relations commerciales. Et pour construire ces usines, il aura fallu des architectes, des ouvriers du bâtiment, des électriciens, et tous, nous avons besoin de nous nourrir tous les jours, de nous habiller, nous loger, nous soigner. Alors, tout ce qui est produit dans cette société est le fruit du travail de toute la classe ouvrière. L'industrie, le commerce, les services, la division internationale du travail ont unifié les travailleurs dans une même classe sociale à l'échelle de la planète. Les travailleurs ont le droit de dire que sans eux, l'économie ne marcherait pas du tout. Sans nous, rien ne tourne, aucune richesse n'est produite. Les capitalistes, on pourrait s'en passer. Pour changer notre sort, garantir un emploi à tous avec un salaire qui permette de vivre de façon décente, il faudra s'en prendre aux véritables décideurs, aux capitalistes, à leur profit et à leur fortune personnelle si c'est nécessaire pour garantir le droit à la vie des travailleurs. Nous en avons le droit moral. Une autre mesure qu'il faut mettre en avant concerne les salaires et les pensions. Tout augmente. Les salaires sont bloqués quand ils ne baissent pas, les pensions ne suffisent pas pour vivre. Et les mesures du Premier ministre Valls vont encore aggraver notre situation. Alors, si nous ne voulons pas être réduits à la pauvreté, il faut revendiquer une augmentation générale des salaires et des pensions. Mais pour nous protéger contre la hausse des prix, seule l'échelle mobile des salaires et des pensions serait une mesure efficace. Oui, il faudra imposer que les salaires et les pensions suivent la hausse des prix. Et pour s'en prendre au patronat, pour le contraindre, il sera nécessaire de contrôler les entreprises et de connaître la vérité sur les agissements financiers ou même sur les plans d'action. Eh bien, il faut revendiquer que la loi cesse de protéger le secret des affaires et que tout puisse être divulgué publiquement afin que les travailleurs soient en capacité de réagir avant que les coups ne pleuvent. Nous défendons le contrôle des travailleurs et de la population sur tous les rouages de l'économie. Ces revendications ne s'imposeront que quand la classe ouvrière, consciente de ses intérêts et déterminée, aura repris le chemin des luttes. Mais aujourd'hui, il est à notre portée de faire entendre ces revendications. Et les prochaines élections en sont un moyen. Pour qu'on n'entende pas dans les médias uniquement les porte-paroles des riches, des bourgeois, des patrons, de nos exploiteurs, il faut que les exploités prennent l'habitude de se faire entendre eux aussi qu'on parle des exigences du monde du travail. Se prononcer pour un programme de défense des intérêts vitaux des travailleurs, relever la tête, ce n'est certes pas encore se battre, mais c'est faire un pas important dans cette direction. Car il ne suffit pas que les travailleurs soient écœurés par la situation, ils le sont. Il faut que la conscience de notre force collective renaisse. Il faut que la classe ouvrière identifie clairement les responsables de sa situation, que les travailleurs sachent qui il faudra viser quand la détermination sera suffisante pour engager la lutte. Il faut qu'ils sachent aussi quel programme mettre en avant, qui soit de nature à changer vraiment notre sort. Il faut qu'ils sachent encore sur quelles femmes, sur quels hommes, sur quelles organisations ils pourront compter pour mener à bien leur combat. Nous participons aux élections pour proposer à notre camp un programme de défense de ses intérêts vitaux. Mais c'est en tant que communistes révolutionnaires que nous le faisons, car il y a bien des valeurs que nous tenons à défendre. En tout premier lieu, nous tenons à affirmer que la classe ouvrière, c'est d'abord l'unité des travailleurs par-delà les frontières. Eh bien, à tout cela, les élections, qui sont un combat politique, peuvent y contribuer en partie. C'est pour cela que nous appelons les nôtres, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, à voter pour les listes lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Bien sûr, nous le savons bien, beaucoup de travailleurs sont écœurés et ne veulent même plus aller voter. Mais ce n'est pas en s'abstenant qu'on fait le meilleur choix. S'abstenir, c'est une façon passive de dire qu'on est écœuré, dégoûté par les politiciens de tous bords. Mais c'est tout ce que ça dit, et ça ne gêne pas les bourgeois. Le système électoral est organisé par ceux qui gouvernent de manière à ce qu'une alternance puisse succéder à une autre, alors même qu'une partie importante des électeurs ne vote pas. Les dirigeants politiques se moquent de l'abstention, ils jouent leur petit jeu électoral. Une des solutions dont les travailleurs pourraient s'emparer pour perturber ce petit jeu des politiciens serait de voter clairement contre ce gouvernement anti-ouvrier, sans que la droite et l'extrême droite puissent s'en enorgueillir. C'est-à-dire voter lutte ouvrière. aucun politicien de droite ou d'extrême droite ne sortirait renforcé d'une élection si une partie importante des travailleurs votait pour faire entendre le camp des travailleurs, pour dire clairement qu'ils ne se résignent pas au chômage, aux bas salaires et aux licenciements. Oui, si une catégorie sociale a le droit de vivre, c'est bien celle des producteurs qui sont utiles et majoritaires dans la société. C'est pourquoi les travailleurs ont le droit moral de défendre leurs revendications, de les exiger pour ne pas sombrer dans la mendicité. Oui, il est intolérable qu'une minorité de capitalistes décide des destinées de la société. Autrefois, il y avait les nobles, les seigneurs et les rois. Eh bien, cela peut être duré longtemps, mais ça a fini par une révolution. Aujourd'hui, c'est la noblesse d'argent qui regroupe les patrons et les banquiers à laquelle il faudra ôter le pouvoir. Et nous voulons lever le drapeau de l'émancipation des travailleurs. Alors, camarades et amis, dimanche, votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière aux élections européennes pour faire entendre le camp des travailleurs.